Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Sandrine.
Salut Barthélémy.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien, merci. Et toi?
Eh ben écoute, comme un petit lundi, tu vois, il fait un peu gris, j'ai une journée un peu costaud, la semaine va être courte avec le jour férié qu'il y avait, donc j'ai deux fois plus de boulot en deux fois moins de temps, mais ça va, je devrais y arriver, et puis je termine bien la journée avec toi, donc je suis très heureux d'être là.
Génial, moi aussi, je suis très heureux d'être là.
Ben super cool. J'ai plein de sujets desquels j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui et en plus t'as une actualité en plus bien remplie et je sais que tu te régales et on est dans une période un petit peu charnière avant les jeux donc merci encore infiniment. Comme je te le disais en préparation, moi j'aime bien commencer par l'enfance, peut-être parce que je suis papa, je sais pas, mais la première question, c'est la tradition, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
J'ai beaucoup de souvenirs de sport. histoire. Mais je pense que le souvenir le plus marquant, et d'ailleurs pour moi comme pour mes coéquipières d'enfance lorsque j'étais en équipe de France jeune, c'est au tout début, lorsque j'étais encore jeune, j'avais à peu près 12 ans, j'avais été donc détectée par le sélectionneur à l'époque de l'équipe de France jeune, Francis Denis, si mes souvenirs sont bons. Or, j'étais encore à la Martinique. J'étais encore okay. au pôle espoir de la Martinique. Donc, je faisais des allers-retours sur la métropole. En décembre, je suis convoquée pour participer à un stage qui avait lieu en Allemagne. Et là, moi, je débarque en Allemagne avec des claquettes.
Ok.
Comme si j'étais aux Antilles à plus 30. Je débarque en Allemagne, il devait honnêtement faire proche de zéro, je pense, aller peut-être 10, quelque chose comme ça. Mais c'était choquant pour toutes mes coéquipières et en même temps pour moi, c'était normal. Donc, heureusement, en équipe de France, on a des dotations, donc j'avais de quoi me chausser convenablement. Mais pour moi, je n'y voyais mais aucun inconvénient.
Maintenant, c'est comment ça se fait que tu débarques en tong ou en claquette? C'est on ne prévient pas, on te dit rien, on te donne juste une date et un billet d'avion et puis derrière tu dois te débrouiller.
Je pense que je n'avais pas percuté et même ma famille n'avait pas percuté. Enfin, je pense que j'avais une autre paire de rechange puisque avant d'arriver en Allemagne, je suis arrivée en métropole, mais je ne sais pas, j'ai enfiler mes claquettes et let's go.
Bon, personne t'a prévenu. Et du coup, vous étiez plusieurs dans ce cas-là, quoi. C'est la petite bande de l'époque.
Plusieurs dans le cas A.
À être arrivé en claquette ou
non,
tu étais...
J'étais la seule. Non, j'étais la seule. J'étais la seule, la fille du soleil qui arrive en claquette pendant l'hiver.
Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, j'imagine que ça doit bien faire rigoler autour de toi quand tu racontes ça. Ça raconte des beaux souvenirs.
Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que Jennifer Digbe, donc c'est une joueuse avec qui j'ai évolué pendant de nombreuses années. Donc, on a commencé, on s'est connus à 12 ans et après, on a même joué en professionnel. Donc, on avait 18-19 ans ensemble. On est encore en contact. C'est vrai qu'elle, c'est l'un de ses meilleurs souvenirs de moi. Et je me suis dit, il faut absolument que je raconte cette anecdote.
Mais du coup, on peut te charrier à vie, en fait.
Oui, exactement. Comme ça, et avec plaisir, j'accepte.
C'est l'icebreaker et au moins ça met tout de suite le ton. Mais c'est génial cette petite histoire. Et moi, je suis curieux de savoir un petit peu ton parcours jeune aussi. Comment est-ce qu'on fait pour se faire détecter aussi jeune? T'avais déjà cette envie brûlante de faire du sport professionnel. Bon, j'ai cru comprendre que t'avais quand même un modèle qui était ton papa. Qu'est-ce qu'il a été joueur il a joué en équipe de France plusieurs fois.
Oui.
Comment on se retrouve un petit peu dans ce parcours-là et à 12 ans déjà se faire repérer en équipe junior?
Alors, il faut savoir que au basketball, il y a des tournois interligues, des tournois interzones qui sont organisés. Donc, même si je viens de contrées lointaines, nous avons une sélection d'organisés qui, elle, derrière, voyage en métropole pour participer à ces tournois-là. Donc, j'ai fait partie de cette sélection qu'ils appellent la Guy Margois, donc Guy pour Guyane, Guadeloupe et Martinique. Donc, c'est, je faisais partie de cette sélection-là qui est partie en métropole, participer à ces tournois et j'ai été détectée comme ça. Ensuite, j'ai accepté parce que c'était la première fois qu'il y avait une joueuse de Martinique qui devait faire des allers-retours en équipe de France pendant l'année. Et j'ai accepté bien volontiers parce que très très jeune, je savais que je voulais être une joueuse de basket professionnelle.
Ok, très jeune déjà. Donc, okay.
Très jeune.
Et quel souvenir, hormis peut-être le froid et l'arrivée en claquette, quel souvenir t'en gardes justement de cette première sélection, les cadets, non, les benjamins, c'est en benjamin?
À l'époque, je sais plus. Non, à l'époque, j'étais en minime.
Ah ouais, c'est... Ok. Mais ouais, quel souvenir t'en gardes du coup de cette première aventure avec le maillot bleu, j'imagine. Ça met déjà des étoiles dans les yeux.
Oui. Alors, déjà, j'ai apprécié le fait de m'essayer à un autre niveau que celui de la Martinique. Donc, j'ai apprécié faire ces allers-retours là pendant l'année pour bien appréhender en fait ce qu'était le haut niveau, parce que à l'époque c'était un petit peu ça, avant de me lancer totalement dans ce cursus sport-études avec mon entrée dans le centre fédéral de Toulouse, etc. Donc j'ai beaucoup aimé ça et pour moi le contraste était flagrant. C'était pour moi une très belle expérience parce que j'en voulais. J'étais une enfant qui en voulait énormément. J'étais déterminée. J'étais, j'avais de l'énergie, de la pointe de mes cheveux au bout des doigts, au bout des orteils. Ça. Ah ouais. C'était fou. Et donc j'aime les challenges. Donc j'ai pris ça comme un challenge. Et j'y suis allée à fond. À aucun moment je me suis dit waouh, et si je suis pas à la hauteur, est-ce que c'est vraiment ça, parce que en fait comme je savais que je voulais être une joueuse professionnelle, je me donnais vraiment les moyens et ça passait justement par mon engagement acharné à ces équipes, à ces regroupements France, quoi.
Ok. Et c'est cet engagement, c'est quelque chose qu'on a pu te reprocher ou pas? Parce que j'ai quelques souvenirs de conversations avec d'autres athlètes qui me disaient que très jeunes, justement, ils avaient cette envie de faire une carrière professionnelle, ils avaient envie de vraiment de se donner à fond, et que mais effectivement pour un adulte, tu vois, ou pour un athlète pro, on comprend, tu vois, cette envie de la gagne, c'est ton métier, ça doit faire partie de toi. Si tu l'as pas, c'est presque inquiétant ou c'est presque surprenant. Mais parfois chez les enfants, ça peut être un peu mal pris ou un peu mal saisi, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a reproché, ou justement quelque chose qui t'a attiré les regards peut-être des sélectionneurs ou d'autres coéquipières d'ailleurs?
Ben, c'est ce qui m'a permis de me démarquer du lot. Maintenant, c'est vrai qu'avec mes coéquipières, c'était un peu mal vu parce que j'avais déjà un comportement d'une enfant pro. Ouais. J'arrivais tôt à la salle, je restais très tardivement, je répétais mes gammes. J'avais déjà le comportement d'une pro. Et donc, par rapport à mes coéquipières, c'était mal vu parce que pour elles, j'en faisais trop. Mais moi, je savais pourquoi j'étais là. Enfin, j'avais pas traversé 8000 kilomètres pour venir servir ou donner des bouteilles. Hein. C'était pas du tout ça. Sinon, je serais restée chez moi dans mon cocon familial.
Ouais. Tu sais d'où ça vient cette envie de devenir pro, cette envie de la gagne? On a déjà dû souvent te dire que c'était ton papa, mais c'est peut-être ta maman, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être des souvenirs dans la cour de récréation. Ça te vient d'où? Tu sais un peu?
C'est un mélange. C'est un mélange. Mmh. C'est pas clair. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon scénario de vie qui est unique à ma personne. C'est un peu tout ça. C'est ma culture. C'est mon environnement direct, que ce soit ma famille, mes proches. C'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est compliqué d'identifier un élément.
Ouais, j'imagine, bien sûr. Et je me demandais un petit peu, tu vois, je n'osais pas poser la question avant aux femmes, mais tu vois, le sport féminin, et tu vois, et encore le sport au féminin d'ailleurs, faut que je me reprenne, mais vient un essor, je trouve, en tout cas ces 5 dernières années, qui est vraiment fantastique. Tout n'est pas encore parfait, mais ça évolue. Il y a plusieurs choses qui vont dans le bon sens. Et tu vois, moi, j'essaye de donner autant la parole aux femmes qu'aux hommes pour vraiment mettre la lumière autant un genre que l'autre. Mais il y a quelque chose, tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment ces rôles modèles dans le sport où je me disais, bah voilà, je peux copier quelqu'un. Et moi, je me demande toujours, en fait, pour une femme, peut-être dans le basket, tu vois, est-ce qu'il y a déjà des rôles modèles? Est-ce qu'il y a déjà des personnes que t'as envie de copier? Parce que maintenant, ça semble presque facile, en fait. Tu vois, une petite fille qui a envie d'apprendre le basket et qui est martiniquaise. Je me dis, elle peut regarder Sandrine. Et puis, en fait, elle regarde son parcours. Il y a Wikipédia, il y a son Instagram. Elle peut la regarder tous les jours et elle peut s'inspirer à fond. Et toi, comment est-ce que tu t'inspires quand t'es plus jeune? Où est-ce que tu vas chercher tes sources d'inspiration et tes modèles, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de modèles, mais
C'est vrai que à mon époque, l'accès à Internet n'était pas aussi évident, n'était pas aussi automatique. Et donc, non, j'allais pas sur Wikipédia pour regarder les statistiques ou le palmarès de joueuses ou de joueurs. Mais, et puis en plus, il faut aussi savoir que en Martinique, nous n'avons pas de sport professionnel sur l'île. Donc, je ne pouvais pas, je n'avais pas de référence sur place. Par contre, étant donné que nous sommes dans le bassin caribéen et que nous sommes plutôt proches des États-Unis, mon modèle à l'époque était Lisa Leslie.
Ok.
Voilà. Lisa Leslie, bon, que je ne dresserai pas le palmarès là, mais c'est en quelque part l'équivalent d'une Michael Jordan.
Je crois qu'elle a encore beaucoup plus de titres que lui d'ailleurs.
Ouais. Enfin, ouais. Tout à fait. Avec l'équipe nationale, etc. Mais c'est d'ailleurs après, par la suite, une femme qui est devenue mon amie, était même présente à mon mariage. Enfin, c'est, on a dépassé ce stade-là parce que j'ai été jouer au Sparks et que j'ai pu faire sa connaissance. Mais quand j'étais donc enfant, c'était elle mon modèle, c'était Lisa Leslie. Ensuite, quand j'ai commencé à être pro, j'avais d'autres modèles. C'était Anne Wouters, Alison Pfister, des filles qui ont évolué à Valenciennes, équipe que j'ai rejoint, moi, par la suite, lors de ma première année pro. Mmh. Donc, voilà.
Okay. Ok, d'accord. Et le choix, tu vois, d'aller rejoindre la WNBA et de te faire drafter, c'était quelque chose aussi pareil que tu as décidé comment ça se fait? Parce que je me dis, tu vois, pour un joueur de basket ou une joueuse de basket, maintenant, ça paraît évident, tu vois, que c'est une chose à essayer. Mais comment toi, la réflexion, elle est venue et comment t'as réussi, justement, à arriver jusque-là? Parce que c'est beaucoup plus dur à faire qu'à dire, je crois.
Ouais, alors, comme je l'ai dit, avoir pour modèle une joueuse américaine évoluant en WNBA, ça coulait de source. Ça coulait de source que je voulais aussi... participer à ce championnat. Donc voilà, je pense que c'est un peu notre positionnement géographique à nous, Antillais, qui fait qu'on est fortement influencé par les Amériques, et derrière que moi, cette envie de jouer en WNBA est venue. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait en 2007. Et dès que j'ai eu la possibilité de me faire accompagner par un agent, de vraiment, on va dire, tramer ma carrière du mieux possible, ça faisait partie des objectifs que j'ai inscrits et il a fait en sorte que ça se fasse en m'inscrivant à la draft, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait assez naturellement. Je savais que j'avais aussi les capacités de me faire drafter parce que bien sûr tu ne te présentes pas à la draft si tu n'as pas le bagage qu'il faut, mais moi je savais que j'avais ce qu'il fallait, donc j'ai dit allez, j'y vais.
Ok. Ouais. Et tu en gardes un bon souvenir?
Ouais. Excellent, excellent. Parce que comme c'est un désir de base, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu la sensation de vivre le rêve américain, complètement. Donc, j'ai pas été draftée dans un état très attractif, on va dire, puisque j'étais à Connecticut. Mais par la suite, j'ai rejoint Los Angeles et là, j'ai pu vraiment profiter et découvrir une belle ville, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la culture américaine, leur état d'esprit, leur vision du travail. J'aime beaucoup. Alors, bien sûr, il n'y a pas que du positif, mais moi, c'est ce que j'ai vu en premier. C'est ce que je note et relève en premier.
Ouais. Ouais, puis il y a une culture, je trouve, même autour du sport et du dépassement de soi, tu vois, américain, qui est, tu vois, le can do, tu vois. C'est pas quand on le fait, c'est pas est-ce qu'on le fait, c'est comment on le fait et on se donne toujours on a l'impression des Américains qu'ils essayent toujours au moins de trouver les moyens pour atteindre leurs objectifs et même si ça peut paraître fou, quoi.
C'est clair, franchement, je trouve que c'est une vraie source d'inspiration. Parce qu'en fait, c'est une culture qui, mine de rien, alors peut-être que c'est propre aussi au sport, mais c'est une culture qui, mine de rien, assez baignée dans la positive attitude. Et tout ce qui gravite autour de nous est assez positif en tant qu'athlète. Hein. Je ne dis pas que les domaines d'activité sont identiques, Mais pour nous, c'est flagrant, c'est no pain, no gain, c'est... Tu as des refrains comme ça qui reviennent très souvent. Enfin, là, j'en ai pas en tête, mais c'est très facile à trouver. Ouais.
Just do it.
Just do it. Let's do it. Franchement, comme c'est un peuple qui a beaucoup d'ambition, clairement, ils font en sorte de se mettre dans de bonnes conditions pour atteindre leurs objectifs.
Mmh. Ouais. Mmh. Et ouais, ça se ressent aussi. Ouais, vu que tu parles de conditions, tu vois, sur les infrastructures, sur le professionnalisme et tout, mm-hmm. ça apprend beaucoup de choses déjà pour une jeune joueuse.
Oui, oui, carrément. Enfin, ça a confirmé un petit peu et façonné mon esprit jusque boutiste. C'est des gens mm-hmm. qui font pas les choses dans le détail. Enfin, je dirais à moitié, très dans le détail, mais à moitié, ils font pas les choses à moitié. Ça j'ai beaucoup aimé, c'est le full package. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple, quand tu vas dans une structure où tu as un terrain de basket, ben forcément tu auras tous les équipements qu'il faut, toutes les différentes balles qu'il va te falloir pour faire ton sport, tu as aussi etc. de terrain parce qu'ils vont penser au flux. Tu as la super salle c'est le super vestiaire avec tout ce qu'il faut comme comment dire, douche, jet de récupération. Enfin, quand t'es en WNBA, t'as des bains d'eau glacée pour la récupération. Enfin, t'as tout le matos qui te faut pour faire en sorte que tes muscles soient prêts et d'aplomb. En musculation, tu as aussi tout le matériel et puis la taille de la salle qui te permet aussi d'être à 30 s'il le faut et sans se toucher. Les espaces sont grands, le matériel il est varié, les gens sont aussi très disponibles et d'aplomb pour te venir en aide parce que les gens l'objectif fixé par le coach pour l'équipe est aussi le même objectif qui va être fixé pour le staff qui va entourer l'équipe. Ils se mettent mes corps et âme dans l'objectif de l'équipe pour, donc ils vont être là pour te venir en aide, etc. Donc moi je trouve que en WNBA on évolue dans de très 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 bonnes conditions et d'ailleurs ce sont des conditions qui pourraient en inspirer d'autres.
Ouais et même au-delà de ça, tu vois, j'ai un souvenir d'une conversation que j'avais eue avec Laura Georges, tu vois, qui avait rejoint qui est donc défenseuse centrale de l'équipe de France, qui était maintenant qui est secrétaire générale de la Fédération française de football, et elle avait rejoint le championnat universitaire et elle m'avait dit que même en championnat universitaire, enfin, elle sentait qu'il y avait une culture du sport, de la gagne, et elle avait appris quelque chose. Elle m'a dit c'était vraiment autour du leadership et du développement personnel. Parce que très tôt, même jeune, on leur apprend à devenir un capitaine, à devenir une leader, à devenir tu vois, cette personnalité influente qui va pousser l'équipe vers le haut. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'humain que toi que tu as appris là-bas, parce que t'es très vite, tu vois. Alors c'est aussi doué à tes qualités sur le terrain, mais je pense que c'est jamais que ça. Très vite, on t'a donné des postes d'importants, des rôles importants dans les équipes. Est-ce que c'est aussi, tu vois, est-ce que le passage aux États-Unis, c'est aussi un accélérateur, on va dire, de toute cette phase-là autour du leadership?
En université, ils s'attardent là-dessus. Ils s'attardent sur le développement personnel de chaque joueur pour élever le niveau de jeu de l'équipe. En WNBA, c'est différent. Ce sera moins du développement personnel, ce sera beaucoup plus de la technique. Enfin, disons qu'ils vont perfectionner une technique déjà acquise. Donc, okay. Donc voilà, moi c'est plutôt ça que j'ai remarqué. Et c'est clair que quand j'ai fait le NBA, j'ai le basket est joué différemment en WNBA qu'en Europe. Donc quand j'étais là-bas, j'ai beaucoup plus perfectionné mes capacités individuelles que le reste. Mais c'était important parce que comme je suis ici issu d'une formation à l'européenne, toute la lecture de jeu, le savoir jouer ensemble, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Par contre, c'est vrai que là-bas, ils s'attardent beaucoup sur les détails qui vont faire que tu vas réussir à passer ta joueuse, par exemple, ou alors à gagner en constance dans, dans ton jeu. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui était important à acquérir. Et d'ailleurs, dès que je le peux, je conseille aux jeunes joueuses de se faire une autre idée du basketball, de la pratique du basketball. Donc de sortir de ce qu'elles connaissent, de sortir de la zone de confort, de sortir de la France, de se confronter à d'autres cultures.
Ok. Ouais, parce que pour toi, c'est hyper enrichissant d'aller voir d'autres jeux, d'aller voir d'autres styles de basket. Et tu connais bien parce que tu as fait la Russie aussi jeune et puis tu as beaucoup voyagé. D'ailleurs, c'est pas trop dur de passer de la Russie aux États-Unis.
Non, franchement, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur. C'est comme.
Même pour les visas et tout. Enfin, j'en sais rien. Je pose des questions stupides, mais.
Non, c'est pas trop dur. Et c'est vrai, beaucoup m'ont demandé, Sandrine, mais comment t'as fait pour partir à 20 ans de la France pour aller en Russie au basket? En tout cas, généralement, les femmes, les Françaises plutôt, elles partent plus en fin de carrière. Elles partent à l'âge de 30, 31, 32. Alors que moi, j'ai carrément démarré, enfin presque démarré ma carrière à l'étranger. Et ma réponse à ça, c'est j'ai quitté mon île à 14 ans. À partir du moment où j'ai quitté mon île à 14 ans, que je joue en France, que je joue en Russie, que je joue en Italie, que je joue en Turquie, que je joue aux États-Unis, je ne suis pas à la Martinique. Donc ça ne change absolument rien pour moi.
Ok. Et depuis tout à l'heure, ouais, j'ai l'impression que tu es très attaché à la Martinique. Moi, c'est une île que j'apprécie particulièrement parce que j'ai de la famille par alliance là-bas, famille Orville. S'ils m'écoutent, je leur fais coucou à Charles et Léonore notamment, de Casse-Pilote. Et j'ai vu que tu t'étais marié aussi là-bas, que tu essayais de revenir très souvent. T'as des projets peut-être pour la Martinique, pour le futur, ou il y a des j'imagine que tu as envie d'y retourner. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Oui, j'ai de gros projets pour la Martinique. Alors, la Martinique, déjà, j'y retourne tous les ans, au minimum 2 fois par an. C'est un passage obligatoire. Obligatoire, ouais. Pour mon équilibre. je ne peux pas ne pas rentrer chez moi, en fait. Donc ça c'est important à savoir. J'ai toujours été en lien avec la Martinique. Ensuite, est-ce que j'ai de gros projets pour la Martinique? Oui, j'ai de gros projets pour la Martinique. Je ne peux pas forcément en parler tout de suite, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai créé une association qui est destinée à la jeunesse martiniquaise. Voilà, j'ai créé une association destinée à la jeunesse martiniquaise pour accompagner les futurs leaders de demain. Voilà ce que je peux dire.
Ok. Bon, bah, trop bien. Bah, j'ai hâte de voir ça. Tu sais quoi, je vais suivre ça de près et j'espère que ça sera pour très bientôt. Ouais. Et puis, te connaissant un petit peu, enfin, pour avoir vu pas mal de choses sur toi récemment, je doute pas de l'ambition de ce projet. Ouais. Et c'est pour les jeunes, c'est d'autant plus cool. Et je soutiens d'autant plus. Ouais. Et puis, je pourrais peut-être y passer lors de mon prochain séjour là-bas et qui j'espère sera très bientôt parce que moi aussi, ça me manque. peut-être moins qu'à toi, mais non, mais c'est marrant parce que, enfin, tu vois, à chaque fois que je m'étais entretenu avec Dimitri Bascou, avec Enzo Lefort, avec Malia Metella, et j'ai l'impression qu'il y a un attachement qui est si fort, tu vois, dans les Antilles ou dans les Caraïbes, tu vois, enfin, c'est un attachement que je retrouve pas ailleurs, tu vois, enfin. Moi, j'ai beaucoup d'amis, tu vois, à 18 ans, ils sont partis, ils sont allés vivre à l'étranger, ils ont fait leur école, ils ont fait un semestre, je sais pas, à l'étranger, puis ils sont partis, ils sont jamais revenus. Et puis eux, ils te disent, moi, j'ai pas besoin de revenir en métropole, enfin, je veux dire, pas d'intérêt, quoi. Mais chez les Antilles, enfin, en tout cas, chez tous les Antillais que je rencontre dans le sport, j'ai l'impression qu'il y a un attachement qui est hyper, tellement fort, quoi. Donc, à ton avis, ça vient d'où?
Je pense que on est très famille. Je pense qu'on a un attachement à la famille qui est peut-être un peu plus fort que d'autres cultures. Et c'est la raison pour laquelle on rentre chez nous, quoi. On rentre chez nous pour voir nos proches. Nos proches auraient été ailleurs, que ce serait la même chose. Donc je pense que c'est plus une éducation qu'on a reçue et qui crée un lien aussi fort avec les membres de notre famille.
Ok. Ouais, pour toi, c'est là, vraiment la culture autour de la famille.
Ouais, ouais. Okay. Je pense, après, je ne sais pas ce que les autres joueurs, enfin, athlètes t'ont dit, mais moi, je répondrais ça.
Mais ouais, c'est souvent ça, et puis c'est souvent ce qui revient aussi, c'est souvent un contexte global, quoi. L'ambiance est bonne, les gens se connaissent, les gens s'apprécient, se respectent. Le rythme de vie est peut-être très unique, très particulier, et forcément. Il y a plus de sourires qu'en métropole. Ça, je peux te croire que quand t'es arrivé pour la première fois, je sais pas, c'est en Allemagne, en claquettes, c'était au-delà des claquettes, le sourire des gens devait manquer.
Tout à fait, c'est clair.
Ok. Et je change un petit peu peut-être de sujet pour peut-être revenir hyper rapidement au basket. Moi, il y avait une question que je me demandais par rapport à l'équipe de France, parce que vous avez gagné énormément de titres. On lit dans la presse que c'était voilà la plus belle génération que le basket français n'ait jamais connue. On voit plein de belles choses à votre sujet, et moi je me dis, je me demandais, vu que tu fais partie maintenant des grands cadres incontournables, on lit même que t'es la meilleure joueuse qu'on ait jamais eue en France. C'est quoi, selon toi, la recette de cette équipe? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si forte? Parce qu'au-delà de, il y a sûrement des individualités, mais je veux dire dans beaucoup d'autres équipes européennes et même internationales, il y avait aussi très bonnes individualités, mais qu'est-ce qui fait que sur le plan collectif, ça ait si bien marché? Je ne vais pas poser une question piège, hein, mais...
Non, j'aime prendre le temps de la réflexion. C'est vrai que d'autres nations ont de fortes individualités ou de forts individus, et donc ça permet forcément d'élever le niveau de l'équipe. Maintenant, en France, honnêtement, la différence tient dans sa diversité. C'est-à-dire que l'Empire français bénéficie complètement au sport. Mmh. Tout simplement. Parce que, alors, clairement, s'il faut donner des exemples, quand on prend par exemple la Jamaïque, ils vont être forts dans le sprint. Si on regarde, par exemple, les pays africains, prenons le Kenya, ils vont être forts en endurance, etc., etc. L'Empire français, qui s'est déployé sur de multiples continents et donc régions géographiques dans le monde, permet au final au sport français d'être bon dans plusieurs catégories, et ce sur la durée. Donc par exemple, pour revenir au basketball, qu'on regarde la composition des équipes de basket, il y a de tout. On retrouve la France, on retrouve l'Empire français en fait, et c'est ce qui fait que la seule équipe avec qui on rivalise mais fortement, c'est les États-Unis, parce qu'ils sont présentés exactement comme et constitués comme nous. Alors, malheureusement, il ne s'agit pas que de ça, parce que il y a aussi dans le sport un aspect mental à ne pas négliger, il y a aussi un aspect technique, il y a le talent. Donc, en termes de talent, c'est là où je dis que je trouve que nous sommes la seule équipe qui pouvons rivaliser avec les États-Unis. Par contre, en termes de technique En Europe, on est très fort. En Europe, on pourrait prendre exemple sur les Espagnols ou encore les Serbes. Et après, en termes de mental, j'ai envie de dire que les Américains, eux, ils ont fait un travail spécifique là-dessus. D'autres pays d'Europe n'en ont pas forcément besoin parce que leur culture leur ont façonné leur mental. Quand tu prends un pays comme la Serbie, qui a connu la guerre, tu n'as pas besoin d'expliquer à une joueuse de basket comment se donner sur un terrain, comment défendre le maillot de son pays. Donc voilà.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ok. C'est très intéressant. J'avais jamais pris autant de recul que tu viens de le faire. Vu que tu as parlé d'empire français et tout, moi je me demande, est-ce que on peut avoir une vision un peu négative de ce qu'est que l'empirisme, tu vois, et est-ce que tu penses que c'est, en tout cas pour le sport, ça reste quand même bénéfique pour les zones qu'on va dire souffert de l'impérialisme, on va dire historique, tu vois. Je veux dire, est-ce que tu penses que c'est pas aussi est-ce que justement c'est pas une super opportunité, je veux dire, pour la France qui a effectivement souffre, tu vois, d'un patrimoine historique qui est compliqué à assumer, à porter, et d'une identité aussi nationale qui est hyper dure à trouver parce qu'il y a différentes cultures dans cette culture. Mais est-ce que tu penses que justement vis-à-vis du sport, c'est quand même bénéfique d'avoir des enfants qui vont porter, des enfants de culture, de religion, de classes sociales différentes, qui vont porter le même maillot, tu vois, parce que moi je trouve que c'est aussi ça la sport, enfin peut-être que je me trompe et peut-être je suis curieux d'avoir ton avis, mais tu vois, je trouve que c'est aussi ça la force du sport, c'est de pouvoir mélanger des genres, mélanger des gens qui n'auraient jamais pu se croiser peut-être dans la vraie vie, en dehors de ça, tu vois. Et je sais pas si toi tu le vois pareil d'un bon œil ou parce que ça permet aussi d'être, tu vois, d'être un super tremplin, tu vois, au-delà de tout ça, quoi. Enfin, je sais pas comment toi tu le vois.
Je ne comprends pas très bien ta question.
C'est normal, il y en avait pas. Mais je veux dire, est-ce que du point de vue du, tu dis oui, l'empire français a bénéficié, en tout cas le sport a bénéficié de l'empire français, de l'équipe de France, on va dire. Mais est-ce que selon toi est-ce que c'est aussi bénéfique, tu vois, pour les jeunes antillais, les jeunes qui viennent des dom-toms ou qui viennent d'autres cultures, justement, d'avoir cette possibilité là en plus, tu vois, je veux dire, tu vois, ça permet, ça rajoute une corde à ton arc, tu vois, ou enfin je sais pas, je m'égare un peu, mais j'ai du mal à formuler ma question, mais je me dis que c'est aussi une super opportunité quand je vois des jeunes antillais de pouvoir aller en métropole pour le sport, de pouvoir développer une carrière autour du sport qui peut-être que dans d'autres contextes aurait peut-être pas été aussi évidente. J'en sais rien. On refait pas le monde avec des si, mais.
Alors, si je comprends bien ta question, j'ai envie de dire que ça dépend des sports. Ça dépend des sports, pourquoi? Pour une joueuse de basket comme moi, oui, ça a été une belle opportunité que de pouvoir quitter la Martinique pour aller en métropole et devenir professionnel. Par contre, quand on regarde l'athlétisme, par exemple, je pense que le pôle France athlétisme devrait demeurer dans la Caraïbe. Mmh. parce que les meilleurs coureurs sont dans la Caraïbe. Usain Bolt, c'est la Jamaïque, c'est Trinidad, c'est les îles comme ça, ce sont les îles qui sont généralement en tête de file des courses de 100 mètres, de 200 mètres.
Ouais, c'est vrai. Okay.
Pourquoi délocaliser ces personnes pour se rendre en métropole? Une fois arrivés en métropole, ils n'ont plus accès, ils n'ont plus du tout accès aux meetings caribéens. Donc, ils font par contre tout ce qui est championnat d'Europe, etc. Sauf que, et ils sont champions d'Europe, sauf que lorsque tu atterris sur les scènes internationales, c'est-à-dire les championnats du monde ou encore les Jeux Olympiques, tu n'es pas aussi bon. Parce que c'est l'adversaire qui te rend meilleur. Tant que tu te complais, tant que tu es face à des adversaires qui sont à ta portée, certes, tu gagnes, donc tu es bon, tu es champion d'Europe, mais tu n'es pas prêt à affronter les plus forts, qui sont eux, dans la Caraïbe, là où tu as démarré. Donc ça dépend, je trouve que c'est très subtil et que idéalement, il faudrait vraiment s'interroger au cas par cas, à limite discipline par discipline. Alors c'est peut-être quelque chose de très compliqué dans la pratique, mais c'est vrai que moi, quand je réfléchis, je trouve beaucoup de pertinence à tout ce que je dis, en fait.
Ça sonne logique. Effectivement, t'as raison. Et tout réunir au même endroit, c'est peut-être un petit peu un syndrome français de vouloir, notamment dans le sport, tu vois, essayer d'être bon à peu près partout. Là où, quand on compare justement avec les Américains, parce qu'on en parle un petit peu depuis le début de la conversation, les Américains, ils ont un peu cette tactique de, on va là où est-ce qu'on est bon. Et on essaye juste d'être efficace et de gagner, et puis et ils abandonnent complètement d'autres sports sur lesquels ils estiment qu'ils ont peut-être moins de chance ou quoi. Et le fait qu'on rassemble tout au même endroit, c'est peut-être un peu symptomatique de ça. Mais
non, je pense qu'il y a des raisons à tout, et la raison pour laquelle il y a un centre comme l'INSEP, c'est super, c'est un privilège que nous avons. Après, je pense qu'il y a toujours moyen de faire un peu mieux. Mais de toute façon, si ces choix-là ont été pris, c'est parce qu'il y avait de vraies raisons derrière. Et j'en ai pu en bénéficier. Ce sont des conditions géniales que le gouvernement a pu mettre en place pour nos athlètes. Et c'est une vraie plus-value à nos performances et à nos résultats. Donc, je ne crache pas dans la soupe et ne remets pas en question les choix qui ont été pris. Maintenant, je pense que ça fait maintenant plusieurs décennies que l'INSEP existe. Si on veut continuer à réfléchir vraiment sur ce qu'on possède entre les mains, histoire de peaufiner un petit peu notre formule et pour l'améliorer davantage, ben moi, je pense que voilà, ça commence par des interrogations comme celle-ci.
Ok. Mais je me pose la question parce que je fais un parallèle avec les universités et les écoles. Typiquement, en France, on a fait le choix un peu de séparer chacune des disciplines et pas de créer des gros pôles universitaires avec tout le monde. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce que tu vois, après, pour justement, tu vois, les on a mis les grandes écoles d'ingénieurs à un endroit dans la région parisienne, on a mis les autres écoles à d'autres endroits, et finalement, ce sont des gens qui se rencontrent jamais avant d'arriver dans la vie professionnelle. Et je trouve justement le modèle, on va dire, universitaire qu'on peut trouver peut-être dans d'autres pays anglo-saxons est plus intéressant, tu vois, parce que tu peux être un biologiste et puis rencontrer quelqu'un qui fait des lettres ou des écoles de commerce. Donc sur le plan humain, tu vois, et sur le plan du développement personnel, ça crée quand même beaucoup ça crée beaucoup de valeur, en tout cas pour l'être humain, de se mélanger et de se confronter à d'autres gens qui sont différents. Mais peut-être que le parallèle n'est pas pertinent avec le sport, parce qu'effectivement, là, on va chercher de l'excellence et pas de l'excellence individuelle notamment, et pas toujours de la mixité, du travail d'équipe et de la connaissance de l'autre, quoi. Donc, mais c'est intéressant. Je me poserai la question.
Ta question, elle est tu t'interroges plus sur le sport ou sur les études?
Bah, l'analogie que j'essayais de faire, c'était ouais justement avec les études, mais moi c'était moi je suis curieux de savoir ce que toi tu penses pour le sport, parce que c'est ce que tu connais le mieux quoi.
Le sport, ben, ça existe, INSEP.
Mmh. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je me demande, tu vois, si on choisit un autre modèle, est-ce que les humains seraient plus heureux dans cet autre modèle? Est-ce qu'il y aurait des vertus pédagogiques, en fait, si tu veux? Moi, je trouve que l'INSEP a peut-être cette vertu aussi pédagogique de faire tous les champions se rencontrer, et même s'ils sont pas dans les mêmes disciplines, bah, qu'ils aient quand même des choses à s'apporter les uns les autres, et d'avoir peut-être un peu cette culture de la gagne, un peu centralisée, mais peut-être que je me trompe. Après, moi, je connais pas, tu vois, j'y étais pas, donc, c'est plus à toi de me dire, mais.
Je suis pas sûr de comprendre ta question, en fait. L'INSEP est un centre où il y a plus de 50 disciplines, qui collaborent tous les jours ensemble. Donc, ce mélange dont tu parles, si je comprends bien ta question, parce que je suis pas sûre de comprendre, ce mélange dont tu parles, on se côtoie déjà. Ces 50 disciplines se côtoient déjà au quotidien. Donc, ça, c'est bon. Après, est-ce que ta question repose sur le niveau d'études également parallèle du niveau sportif?
Non, pas du tout, mais je me disais, voilà, si un peu comme tu le suggérais, on décentralisait tout ça et qu'on mettait, tu vois, justement, chacun des pôles d'excellence un petit peu par zone géographique, et que on éclatait un petit peu tout ça, est-ce que on n'y perdrait pas un petit peu, au-delà effectivement d'y gagner, comme tu l'as dit, de ne pas déraciner certains athlètes, de les laisser aussi dans un écosystème de compétition performant. Est-ce que tu perds pas aussi sur un peu sur le plan humain d'avoir cette mixité sociale, ethnique, culturelle que tu peux avoir dans un endroit comme l'INSEP? C'est une réflexion. Je te pose pas forcément la question, parce que je sais que c'est un peu philosophique, mais c'est la question que moi je me pose.
Moi, ça m'intéresse, au contraire. Alors, ce que tu dis, oui, c'est pertinent. Moi, j'ai envie de dire que choisir, c'est renoncer. Tu ne peux pas faire un choix et penser, en fait, que toutes tes cases seront ouvertes. Donc, forcément, tu fais des choix. C'est savoir un petit peu qu'est-ce qui est le plus important pour toi ou pas.
Ouais.
Donc, oui, si on fait le choix d'éclater ce centre de l'INSEP, ça va peut-être sûrement bénéficier à la performance, et un peu moins à l'humain. Mais, et encore, enfin, je suis pas forcément certaine. Après, si on fait le choix de justement tout concentrer sur un même lieu, on fait pas de sur-mesure, c'est sûr. On reste quand même dans un niveau de performance et d'éducation élevé. Voilà.
Ok. Bon, on se sera posé la question, et je pense qu'on aura peut-être ouvert le débat si on a des chercheurs qui veulent un peu étudier sur ces notions de la performance là. Donc, mais c'est intéressant. Franchement, j'avais jamais vu les choses comme ça. Donc, ça me fait plaisir de toi t'entendre déconstruire un petit peu ce modèle là qui est effectivement hyper ancré, et peut-être qu'effectivement il est temps de repenser ou de remanier justement pour répondre mieux de toute façon aux différents besoins et aux différentes exigences, et aussi au bien-être des athlètes. Donc, hyper 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 intéressant. Et d'ailleurs, vu que t'aimes bien, j'ai cru comprendre un petit peu les réflexions un petit peu comme ça, et les échanges avec d'autres personnes. J'ai vu que t'avais monté, du coup, il y a pas très longtemps, une petite chaîne qui s'appelle Bavardage. Alors, petite, excuse-moi, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais dans lequel tu vas interviewer des gens un petit peu de ton réseau, et je serais hyper curieux d'avoir un petit peu la genèse de pourquoi tu l'as fait, parce que finalement ça ressemble un petit peu à l'aventure que j'ai moi avec le podcast, et de savoir qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien, et pourquoi est-ce que tu l'as fait.
Bavardage m'est venu il Alors, le nom bavardage m'est venu il y a peut-être maintenant un an et demi. Je me rappelle, je conduisais ma voiture, j'allais faire des courses et je réfléchissais. Parce qu'un talk show, j'en voulais absolument. Et ce, depuis un moment. J'ai toujours voulu avoir un talk show. Et j'avais pas forcément trouvé le bon timing. Et puis lorsque je me suis décidée à lancer des lives Instagram, il me fallait un nom. Et je réfléchissais à un nom. Je trouvais pas de nom. Pour trouver un nom, il fallait que je fasse en sorte que ce nom reflète en quelque part l'objectif. Et ce jour-là, j'étais au volant de ma voiture. Je venais à peine de me garer au supermarché du coin. En faisant des courses, j'avais la tête ailleurs. Et boum, tout d'un coup, le mot bavardage m'est venu. Et bavardage orthographié, D'apostrophe, âge, A, accent circonflexe, âge. Et pourquoi? Alors, bavardage. Bavardage, c'est une annotation que j'ai souvent eue sur mon carnet de correspondance à l'école. J'étais une enfant bavarde.
Ok.
Une enfant très bavarde. Et ensuite, pourquoi je l'ai orthographié ainsi? C'est parce que je voulais avoir des discussions d'âge mûr. Tout simplement. Donc, créant quelque part une dualité entre bavardage, qui veut dire au final parler pour ne rien dire, et bavardage orthographié, comme je viens de l'épeler, c'est-à-dire avoir des discussions d'âge mûr. Voilà. Pourquoi réellement, après avoir expliqué ce que le nom voulait dire, en quelque part, je veux déconstruire l'idée que la population se fait d'un athlète de haut niveau. C'est-à-dire, bête comme une noix et ignorant comme une carpe.
Tu penses que les gens pensent ça des athlètes?
Beaucoup. Beaucoup pensent ça.
Non.
Beaucoup pensent ça.
Non, vraiment non. Ah, je suis pas d'accord.
D'accord. Tant mieux. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, au contraire. Donc, tant mieux. Mais pour moi, c'est un petit peu ça que j'ai voulu déconstruire. Et je ne le dis pas. Alors là, tu m'as posé la question, donc je le dis. L'objectif est de mettre en avant des athlètes entrepreneurs, comme j'aime à dire. Et je parle aussi donc de l'actualité sport de certains. Et je parle aussi de santé. Voilà. Donc, sport, santé et athlète entrepreneur.
Ok. Et tu arrives à identifier ce que ça t'apporte, toi? C'est quoi? C'est le fait d'aller parler à d'autres athlètes entrepreneurs qui t'aident, toi, vers justement cette quête de peut-être de l'entrepreneuriat? Parce que je pense que tu as déjà, j'en suis même persuadé, je pense que tu causes déjà toutes les cases sur la partie athlète. Qu'est-ce que tu vas chercher? De l'inspiration, tu vas chercher de la mise, tu vas chercher à mettre en valeur les autres. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, individuellement?
Je mets en valeur les autres. Et qu'est-ce que ça m'apporte, moi, individuellement? Un enrichissement personnel. Alors, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup poser des questions. Enfin, j'ai pas créé ce podcast en ayant une posture. Je n'ai pas de posture. Ce que je fais là, dans les lives Instagram, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Il n'y a qu'à interroger mes coéquipières pour savoir que lorsqu'on a un dîner d'équipe ou tout autre regroupement, que je suis la première à poser des questions. Et d'ailleurs, lorsqu'elles s'ennuient, elles se tournent vers moi en me disant « Sandrine, est-ce que tu n'aurais pas un sujet aujourd'hui ?» Donc, c'est quelque chose que je fais très naturellement, qui fait partie de moi et que j'ai voulu en fait partager avec les autres. Mettre en lumière les athlètes. Et aussi, pour moi, c'est un véritable enrichissement que d'échanger avec toutes ces personnes et de parler justement de ce qui les anime.
Ok. Et sans indiscrétion, quelle est ton ambition avec ce projet? Jusqu'où est-ce que tu as envie de l'amener?
Je fonctionne vraiment par amour, par plaisir. Je n'ai pas d'objectif à moyen, long terme. Je fais. Pas d'autres réponses à te donner. Et je n'ai pas d'objectif particulier.
Ok. Ok. Bah écoute, très chouette. Bon, en tout cas, je recommande aux auditeurs d'aller y tendre une oreille, parce que si je pense que s'ils aiment bien notre échange, ils aiment bien ton travail et le contenu que tu crées justement autour de ces échanges là. Et t'as peut-être d'ailleurs une conversation que tu recommandes pour les gens qui connaissent pas, parce que là je vois t'as interviewé déjà pas mal de monde et c'est quoi là l'épisode que tu pourrais recommander le plus?
Ah, c'est compliqué d'en choisir un. C'est compliqué parce que en fait je trouve que tous les épisodes sont intéressants, que ce soit celui que j'ai fait avec Nando De Colo sur son rôle de père, comment il allie son rôle de père et sa carrière de basketteur, que ce soit celui que j'ai fait avec NDNMIM sur avoir un an de plus, qu'est-ce que c'est, tout comme celui que j'ai fait avec Delphine Lulleri où on parle de la douleur, donc la douleur, qu'est-ce que la douleur chronique, puisqu'elle est spécialiste de la douleur. Tout comme celui que j'ai fait avec en anglais avec Yelena Lutsenko, qui est biélorusse et qui nous parlait de son arrestation lors d'une manifestation en Biélorussie. Il y en a pour tous les goûts. Donc je n'ai pas forcément de recommandations. Moi, j'ai envie de dire. Si vous êtes des personnes curieuses et donc ouvertes d'esprit, on se donne rendez-vous sur Bavardage. Je communiquerai sur les différents lives. Et puis, bien sûr, si vous voulez voir aussi les replays, j'ai créé une page YouTube où là, parce que regarder un replay d'une heure et demie, ça peut être très long. J'ai choisi de justement raccourcir un petit peu ces vidéos en faisant des montages de 15 minutes à peu près en moyenne.
Okay.
Ou pour justement permettre à tous ceux qui sont curieux de découvrir Bavardage d'y consacrer justement un peu moins de temps, mais en tout cas en captant l'essentiel de ce qui aurait été dit pendant le live.
Ok, trop bien. Eh ben écoute, moi je me permets aussi de faire ma petite recommandation. Moi, j'avais bien aimé ce que tu avais fait avec avec David Larose, que j'ai aussi la chance de rencontrer, qui est un homme merveilleux et qui moi avait, enfin lors de notre échange, m'avait un peu mis des papillons dans le ventre et m'avait fait vivre des grosses émotions quand il m'avait raconté son histoire. Et
ouais.
Et c'est quelqu'un que j'adore et que pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour tout ce qu'il a fait. Donc
exactement, celui-là, ce live-là avec David sur la SSM Academy, je trouve qu'il est fort. Il donne en fait une vraie vision de ce qui pourrait permettre à un athlète, ou en tout cas de ce qui pourrait servir pour le rôle de chef d'entreprise. C'est-à-dire que on fait ce qu'on fait en tant qu'athlète de haut niveau, mais il y a des outils qu'on utilise dans notre métier qui sont aussi nécessaires lors de notre reconversion si on veut devenir chef d'entreprise. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, entre autres. Mais tout ce qu'il dit est très instructif.
Ouais, c'est vrai. Mais puis je suis sûr que David il réussira très bien dans ce qu'il est en train d'entreprendre et je sens qu'il y a beaucoup de passion dans tout ce qu'il fait. Et ça me fait une petite passerelle pour le dernier sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi. Puisque t'en as parlé aussi sur un live, il me semble, que j'ai pas vu encore, donc j'attends le replay, si tu vas me dire s'il est déjà sorti, mais qui était, t'as pris la parole récemment sur l'endométriose. Alors peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas exactement ce que c'est une maladie. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une maladie qui provoque des douleurs chroniques qui sont liées très souvent au cycle de menstruation, mais qui peuvent être aussi avoir d'autres origines comme comme une pénétration sexuelle, par exemple, ou même c'est mis en tout cas dans cette même famille. Dis-moi si je me trompe. Hein.
Oui, je préfère du coup.
Vas-y.
Là-dessus. Alors, l'endométriose. Qu'est-ce que l'endométriose ? L'endométriose, c'est un tissu endométrial
qui
se greffe sur des organes du corps, mais qui a le même conditionnement que s'il était juste, détruit par le corps. C'est-à-dire que, je m'explique, lors des règles, lorsqu'il n'y a pas fécondation, le tissu endométrial saigne. Mmh. Ce sont les règles. Sauf que ce tissu-là, en fait, qui tapisse l'utérus, qui est censé justement saigner et avoir cette fonction-là, lorsque une personne atteint l'endométriose, ce même tissu, en fait, migre vers d'autres organes, se greffe sur eux et a en fait la même fonction. C'est-à-dire, lors des règles, il y a donc un premier écoulement sanguin depuis l'utérus, mais il y a aussi d'autres écoulements sanguins depuis ces tissus-là qui se seront greffés sur les autres organes. Donc, ce qui veut dire qu'on peut saigner de l'utérus, mais aussi on peut saigner des poumons. Tu comprends ? C'est ça, en fait, la différence. Maintenant, le fait que ce tissu-là, qui est en quelque part de la chair, se greffe ailleurs, ça peut créer donc des lésions, des adhérences, des kystes ovariens également. Voilà.
Ok, et c'est beaucoup plus clair que quand moi je l'explique.
C'est pour ça que j'ai voulu prendre le relais. Parce qu'en fait, quand tu dis que tu as parlé de rapport sexuel, les douleurs ressenties lors du rapport sexuel ne sont que des symptômes.
Ouais, d'accord, ouais. Pardon.
Tu comprends ce que je veux te dire ? Ce ne sont que des
symptômes. Ouais, tout à fait.
Voilà.
Ok. Et. Du coup, effectivement, aujourd'hui, c'est reconnu comme une maladie, en tout cas par les médecins, ou une pathologie plutôt, peut-être, je sais pas. Et on en parle de plus en plus. Mais dans le sport, c'était encore un sujet assez tabou, et même, en tout cas, publiquement, s'il y a peut-être une image qu'on peut avoir des athlètes, c'est effectivement de pas toujours parler de leur corps et de pas toujours parler des faiblesses que leur corps peut avoir. Et pourtant, je crois que selon les chiffres et selon les études, c'est entre une femme sur 10 et une femme sur 2 qui en souffrent. Et toi, t'as choisi de prendre la parole sur ce sujet-là et de parler de ce que toi, tu vivais dans certains médias. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de courage dans cet acte, tu vois, de vouloir en parler et de briser un peu ce tabou-là. Et je me suis demandé qu'est-ce qui t'avait amené à vouloir libérer la parole sur le sujet et est-ce que ça avait aussi accéléré peut-être des conversations que tu peux avoir avec d'autres athlètes, parce que c'est un moi je vois en tout cas qu'on parle de plus en plus de ce sujet-là dans d'autres sphères, dans d'autres écosystèmes, sur les réseaux sociaux notamment, et sur des comptes qui sont dédiés à ça et qui sont très bien et qui en parlent avec beaucoup de d'intelligence. Et moi je me demandais qu'est-ce qui t'avait fait franchir le pas ? Est-ce qu'il y avait eu un déclencheur derrière cette prise de parole ?
Alors, je suis atteinte d'endométriose. Quand j'ai décidé de me prendre en main et d'engranger suffisamment de connaissances pour comprendre la maladie, c'est là que j'ai voulu en parler publiquement.
Ok. Mmh. Et tu l'as fait pour une raison particulière ?
Je l'ai fait parce que je savais que c'était une maladie taboue, invisible et incomprise. Donc, et je savais aussi que on a tous un niveau d'influence plus ou moins grand dans notre environnement, et que en parlant de cette maladie, je pouvais permettre à d'autres personnes d'en parler aussi, de l'accepter et de trouver des solutions pour eux-mêmes. Donc, en quelque part, c'est pour libérer la parole et être une source d'inspiration pour ensuite libérer des esprits.
Ok. Et tu sens qu'autour de toi, ça a provoqué des conversations ?
Oui, énormément de conversations. Énormément de conversations. Aujourd'hui, je suis même citée lors de différents colloques. En fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que... alors, il y a plusieurs choses. Déjà, aux Antilles, c'est une maladie qui est très répandue. Qui est très répandue. Tout comme le cancer de la prostate est très répandu. Pourquoi ? Parce que les Antilles, je dis la Martinique, mais c'est même les Antilles ont été envahies de chlordécone pendant de nombreuses années. Et ce produit toxique a aussi impacté les différents corps humains en générant des maladies telles que le cancer de la prostate et l'endométriose. En fait, donc, clairement, étant donné que je suis martiniquaise, je suis donc beaucoup citée aux Antilles lorsqu'on parle de cette maladie. Ensuite, ici en métropole, je suis beaucoup citée plutôt par rapport au sport, parce que c'est vrai que dans le sport, notre corps est notre outil de travail. Donc, quand tu comprends que ton corps, en plus de tout ce qu'il subit au quotidien, comme impact, comme lésion, tu dois aussi gérer une endométriose, ça apporte une double difficulté qui nécessite d'être adressée. Donc, et je pense que je ne suis pas la seule athlète à avoir l'endométriose, mais pour l'instant, je suis la seule athlète à en parler. Encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas que je sois la seule athlète à en parler. Si je suis la seule athlète atteinte d'endométriose à en parler, c'est une chose. Il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y en a d'autres qui sont aussi atteintes et qui ne sont pas encore en mesure d'en parler, ça, je respecte. Par contre, c'est vrai que je les incite, je les invite, je les encourage à être de plus en plus à l'aise avec ce qu'elles vivent, parce que plus on sera nombreuses, et mieux ce sera. Et mieux ce sera pour qu'on puisse récolter suffisamment de fonds pour la recherche, pour aider des femmes qui sont aujourd'hui très, très gravement impactées. Il faut savoir qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes par la maladie. Ce qui veut dire que ce que moi je vis, une autre femme pourrait ne pas vivre ce que je vis et pourrait vivre au final des symptômes beaucoup plus invalidants. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a besoin que les femmes soient à l'aise à parler de ce qu'elles vivent, parce que plus on aura de femmes, plus on aura une capacité d'étude beaucoup plus fine, puisque comme je dis, il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes d'endométriose. Donc si au final on n'a que deux femmes avec lesquelles on peut réfléchir à ce qui se passe réellement en elles, ça va permettre effectivement d'avoir une base de réflexion et des éléments de réponse, mais plus au final le pool de femmes est important, et plus aussi on aura des éléments de réflexion. Donc voilà la raison pour laquelle j'appelle à cette libération de parole.
Ok. Et tu recommandes de le faire sous quelle forme ? Entre amis, avec son médecin, avec publiquement
Non, pas forcément publiquement. Aujourd'hui, il y a des associations, il y a aussi d'autres moyens, en fait, hein, de communiquer là-dessus. Info Endométriose, par exemple, est une association qui permet d'avoir, en tout cas, de recueillir suffisamment d'informations pour aussi, comment dire, un peu mieux connaître la maladie, parce que c'est ça en fait, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une forte méconnaissance autour du sujet, donc ça c'est la première chose, mais je pense que il faut déjà commencer en fait à parler avec les gens qu'il y a autour de nous. Parce que souvent, ce sont des personnes qui, même avec leur, dans leur fratrie, ne disent pas grand-chose ou à une ou deux personnes. Enfin, c'est très compliqué. Donc, je pense que avant même de parler de public, il faut déjà parler à son environnement direct.
Ouais. Ok. Et tu trouves que c'est une bonne chose, la libération qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et tous ces comptes Instagram qui sont nés justement autour de cette prise de parole? C'est quelque chose que tu suis, que tu observes, que tu soutiens même? Quel est ton regard là-dessus?
On parle de quoi? On parle d'endométriose ou d'autres sujets?
Bah oui, de moi je vois, en fait j'ai entendu parler de ce sujet la première fois depuis les réseaux sociaux. Mm-hmm. Notamment sur Instagram, il y a plusieurs comptes qui justement en parlent et libèrent le sujet et partagent des témoignages de femmes qui ont vécu qui en souffrent et qui essayent de et moi c'est comme ça que j'en ai entendu parler et j'ai l'impression que le phénomène a complètement explosé et qui aujourd'hui il est devenu presque de notoriété, on va dire presque public. Alors je pense que c'est encore loin d'être le cas, mais en tout cas il y a eu un très très gros succès de ces courants-là. Et du coup je me demandais, toi, quel était ton regard par rapport à ces courants-là et si tu les suivais d'ailleurs ou pas du tout, quoi.
Alors je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que pour toute maladie ne tue pas, les médias et le gouvernement ne sont pas intéressés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas suffisamment d'éléments ou même de solutions de traitement dans notre cas. Donc, ce qui veut dire que toute action individuelle est bénéfique. Le côté le moins intéressant, c'est que, et d'ailleurs c'est pour tous les sujets, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas vraiment distinguer le vrai du faux. En tout cas, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est ça qui me dérange. C'est que parfois, surtout dans quand il y a un effet de mode, quelque part, tout le monde veut un peu avoir une part du gâteau et donc se dit, moi aussi je veux faire, mais il faut soigner l'information. Moi, je pense que faire, c'est bien, il faut soigner l'information qu'on diffuse parce que on ne sait pas qui est-ce qu'il y a à l'autre bout de l'écran qui va percevoir, capter cette information et qui pourrait ou pas lui être bénéfique. Je comprends encore ce mot, mais c'est vrai que c'est... voilà, il y a quand même une santé en jeu et je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
Ok. Bon, bah merci de le rappeler en tout cas. Mm-hmm. Bon, le temps file et bonjour, j'avais encore plein de questions pour toi, mais si ça dure 2 heures, ça sera moins intéressant pour les auditeurs. Écoute, j'ai passé un super moment et la dernière question que je pose à tous mes invités avant de les laisser, c'est un peu comme un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est ta recommandation, quelle sera la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format un peu libre, un peu comme celui-là, un peu engagé aussi, sur lequel on peut se poser des questions et on peut prendre la parole librement autour de plein de sujets.
Ah, c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont beaucoup de choses à dire. Si vraiment tu veux une réponse, je vais te donner.
Tu peux m'en donner plein. Tu peux m'en donner plein, mais pardon.
Ouais, je vais te donner une athlète que moi j'ai envie de recevoir dans le bavardage. C'est Alexandra Rica.
Ok. Je la connais bien. Elle est venue sur le podcast épisode numéro 6 ou 7 d'ailleurs. J'ai gardé très bon contact avec elle. C'est super sympa.
Je ne sais pas aussi qui tu as déjà eu dans ton podcast, mais enfin, il y en a. En fait, c'est délicat en fait de citer une personne plutôt qu'une autre. Pour être honnête, c'est pas.
Ouais, bien sûr.
Pas forcément à l'aise avec ça parce que j'ai pas d'intérêt à mettre une personne plutôt en avant qu'une autre. Mais allez, je vais mettre un basketteur. et je vais te dire Axel Toupane.
Ok, ok, ça marche. Il y a un sujet qu'il faut que je lui demande.
Non, je te laisse faire tes recherches en tant que journaliste.
Justement, je suis pas journaliste, je suis entrepreneur et c'est pour ça que
c'est
pour ça que je vais gratter de l'info à droite à gauche. Ok, mais écoute, merci infiniment, Sandrine. J'ai passé un super moment. Écoute, je croise les doigts aussi pour. On en a pas parlé, mais pour cette candidature pour être porte-drapeau. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Et je touche du bois aussi pour toi et toutes tes coéquipières. Et je sais que vous avez beaucoup d'ambition. Donc et même pour tous tes projets qui sont à côté, parce que je sens que tu es d'une énergie débordante et que en dehors du sport, il se passe aussi beaucoup de choses. Donc merci infiniment et puis je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt.
Merci à toi de m'avoir reçu, vraiment j'ai passé un super moment. Merci.
Et ben merci Sandrine, à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.